Chapitre 21. Vous savez la nouvelle ? Non. Mademoiselle de Chandoré est allée visiter Monsieur de Boiscoran. Est-ce possible ? C'est exact. 20 personnes l'ont vu remonter la rue du Château au bras de l'aînée des demoiselles de la Varande. Entrée à la prison à 2h10, elle n'en est ressortie qu'à 3h15. Cette jeune personne est folle. Et la tante, que dites-vous de la tante? Qu'elle est encore plus folle que sa nièce. Et monsieur de Chandoré? Il faut qu'il ait perdu la tête pour autoriser des frasques pareilles. Après cela, vous savez, tantes et grands-pères ont toujours fait les quatre volontés de mademoiselle Denise. Jolie éducation! Voilà ce qu'elle produit. Après un tel éclat, il est impossible qu'une jeune fille trouve un homme qui consente à l'épouser. Ainsi fut accueillie à Sauveterre la nouvelle de la visite de mademoiselle Denise à Jacques, nouvelle qui, en un moment, eut fait le tour de la ville. Les dames de la société n'en revenaient pas. C'est qu'on est excessivement vertueux à Sauveterre et qu'on s'y croit en conséquence le droit d'être encore plus sévère et que, surtout, on n'y badine pas sur le chapitre des convenances. Braver l'opinion y est un crime qui ne se pardonne pas. Or, l'opinion, de plus en plus, se déclarait contre Jacques de Boiscoran. Il était à terre, on se disputait la gloire de le frapper. S'en tirera-t-il ? Ce problème, quotidiennement posé au cercle littéraire, avait fait jaillir des flots d'éloquence, provoqué d'ardentes discussions et même soulevé des disputes terribles dont l'une avait failli se terminer par un duel. Mais nul ne se demandait plus « Est-il innocent ?» L'éloquence du docteur Saignebosse, l'influence de M. Sénéchal, les habiles efforts de Méchinet avaient également échoué. « Ah, nous aurons une session intéressante !» disaient quantité de gens qui, déjà, s'inquiétaient de savoir quel serait le président des assises afin d'être des premiers à lui demander des places. Aussi, de jour en jour, s'intéressait-on plus passionnément au procès et à tous ceux qui, directement ou indirectement, s'y trouvaient mêlés. On voulait savoir ce que faisaient, disaient et pensaient Monsieur et Madame de Claudieuse, Coqueleu, Monsieur Galpin d'Aveline, Maître Magloire, Mademoiselle de Chandoré, Madame de Boiscoran, le docteur Saignebosse. On puisait dans l'absence du marquis de Boiscoran une preuve nouvelle de la culpabilité de Jacques. On s'étonnait du séjour prolongé de Maître Folga, lequel avait généralement déplu par suite de son extrême réserve qu'on attribuait à une fierté aussi excessive que déplacée, et on disait « Il faut qu'il n'ait guère d'ouvrage à Paris pour rester comme cela des mois à Sauveterre. » Tout naturellement, le rédacteur de l'Indépendant de Sauveterre exploitait d'une ardeur sans pareille cette mine inespérée d'intérêt. Il en oubliait sa grande querelle avec le rédacteur de l'Impartial de la Seudre, qui l'accusait de bonapartisme et qui lui répondait par l'épithète de communard. Chaque jour, en dehors de la chronique locale, il ajoutait un paragraphe à l'affaire Boiscoran. Et il écrivait, usant et abusant de l'initiale, « La santé du comte de C, bien loin de s'améliorer, décline visiblement. » Il se levait lors de son installation à Sauveterre et maintenant il ne quitte plus le lit. Celle de ses blessures qui, dans le principe, semblait présenter le moins de danger, celle de l'épaule, s'est soudainement aggravée sous l'influence des chaleurs tropicales de ces derniers jours. À un moment, on a pu redouter la gangrène et croire qu'il en faudrait venir à une amputation. Hier, monsieur le docteur S. nous a paru inquiet. Et comme un malheur ne vient jamais seul, la plus jeune des filles du comte de C est très souffrante. Elle était malade de la rougeole lors de l'incendie. La terreur, le froid et le déplacement ont amené une rechute qui peut n'être pas sans danger. Au milieu de si cruelles épreuves, madame la comtesse de C est admirable de dévouement, de courage et de résignation. Aussi, lorsqu'il lui arrive de quitter un moment ses chers malades pour venir à l'église prier pour eux, recueille-t-elle sur son passage les marques de la plus respectueuse sympathie et de la plus sincère admiration. « Ah, misérable Boiscoran !» s'écrivaient les sauveterriens après un tel article. « Nous avons envoyé prendre à l'hôpital et madame la supérieure a bien voulu nous donner des nouvelles de C, le pauvre idiot dont le rôle a été si décisif dans le drame sanglant du Valpinson. L'état mental de C ne s'est pas modifié depuis qu'il a été soumis à l'examen des hommes de l'art. L'étincelle d'intelligence, allumée en son cerveau par l'horreur du crime, semble décidément et à tout jamais éteinte. Impossible de lui arracher une parole. À peine semble-t-il reconnaître les gens qui prennent soin de lui. Il n'est cependant pas enfermé. Inoffensif et doux, comme un pauvre animal qui aurait perdu son maître, il erre tristement à travers les cours et les jardins de l'hospice. Monsieur le docteur S., qui s'était beaucoup occupé de lui, a presque totalement renoncé à le voir. Quelques personnes pensaient que C. serait appelé en témoignage. Des informations puisées aux meilleures sources nous autorisent à croire, au contraire, que les débats perdront cet élément si dramatique d'intérêt et que C. ne paraîtra pas devant le jury. Décidément, la déclaration de Coqueleu a été un coup de la Providence, disaient après cela, en hochant la tête, des gens qui n'étaient pas bien éloignés d'y voir un miracle. Le jour suivant, le rédacteur de l'Indépendant s'occupait de M. Galpin d'Aveline. « Monsieur G.D., écrivait-il, le juge d'instruction, est en ce moment assez souffrant, ce qui est bien compréhensible après une enquête aussi laborieuse que celle de l'affaire Boiscourant. On nous assure qu'il n'attend que l'arrêt de la Chambre des mises en accusation pour prendre un congé qu'il compte passer à une des stations thermales des Pyrénées. » Arrivait alors le tour de Jacques. « Monsieur J. de B. supporte mieux qu'on ne s'y serait attendu la détention préventive. Sa santé, d'après les renseignements qui nous parviennent, serait excellente et son moral n'aurait point souffert. Il lit beaucoup et consacre une partie de ses nuits à préparer sa défense et à rédiger des notes pour ses avocats. Puis venait au jour le jour de moindres nouvelles. Le secret de M. J. de B. vient d'être levé. Où ? M. de B. a eu ce matin une entrevue avec ses défenseurs, Maître M., l'homme le plus éminent de notre barreau, et Maître F., un jeune et déjà célèbre avocat de Paris. Cette conférence a duré plusieurs heures. Nous nous abstiendrons de détails, mais nos lecteurs comprendront la réserve que nous impose la situation pénible d'un prévenu qui continue à protester énergiquement de son innocence. Et encore, M. de B. a reçu hier la visite de sa mère. Ou enfin, nous apprenons à l'instant le départ pour Paris de Mme la marquise de B. et de Maître F. Notre correspondant de Poitiers nous écrit que la décision de la Chambre des mises en accusation ne saurait tarder. Jamais l'Indépendant de Sauveterre n'avait eu tant de lecteurs. Et comme c'était à qui serait le mieux renseigné, quantité de désœuvrés, c'était constituer les espions volontaires des amis de Jacques et passer leur vie à essayer de surprendre ce qui se passait chez M. de Chandoré. Les plus hardis arrêtaient les domestiques et les interrogeaient. Voilà comment, le soir de la visite de Mademoiselle Denise à la prison, il se trouvait des gens à flâner rue de la Rampe. Vers les 10h30, ils virent la voiture de M. de Chandoré sortir de sa remise et venir s'arrêter devant la porte. À 11h, M. de Chandoré et le docteur Seignebose y prirent place et le cocher fouetta son cheval qui partit au grand trot. « Où peuvent-ils bien aller ?» se demandèrent les curieux. Et ils suivirent la voiture. C'est à la gare que se faisait conduire le docteur et grand-père Chandoré. Prévenu par une dépêche, il se rendait au devant du marquis et de la marquise de Boiscourant et de Maître Folga. Ils arrivèrent bien trop tôt. Le chemin de fer d'intérêt local qui dessert Sauveterre n'est pas le premier du monde pour la régularité et garde encore dans son service certaines habitudes de ses anciennes patinches dont le conducteur, au moment du départ, avait toujours oublié une commission. À minuit et quart, le train qui eût dû être en gare à 11h55 n'était pas encore signalé. Tout aux environs était silencieux et désert. À travers les vitres, on apercevait le chef de la station sommeillant dans son grand fauteuil de cuir. Employés et facteurs dormaient, allongés sur les banquettes de la salle d'attente. Mais en effet, à ce système, à Sauveterre, on en a pris son parti et c'est sans étonnement ni impatience que M. de Chandoré et le docteur Saignebosse se mirent à se promener de long en large dans la cour. On ne les eut pas beaucoup surpris, car ils connaissaient leur ville, si on leur eût dit qu'en ce moment même, ils étaient observés. C'était ainsi, pourtant. Deux curieux, plus obstinés que les autres, avaient pris, pour les suivre jusqu'au bout, l'omnibus qui dessert tous les trains. Et, postés un peu à l'écart, ils se disaient « Ah ça, qu'attendent-ils comme cela ?» Enfin, vers 1 heure moins le quart, une sonnette tinta et la station parut s'éveiller en sursaut. Le chef de gare ouvrit son guichet, les facteurs se dressèrent, en se détirant les bras et en se frottant les yeux, des jurons retentirent, les portes claquèrent et le sable cria sous la roue des brouettes. Bientôt, on entendit dans le lointain comme un sourd roulement de tonnerre et presque aussitôt, tout à l'extrémité de la voie, brilla dans la nuit, comme une boule de feu, la lanterne rouge de la locomotive. M. de Chandoré et le docteur coururent à la salle d'attente. Le train s'arrêtait. Une porte s'ouvrit et Mme de Boiscoran parut, s'appuyant au bras de Maître Folga. Le marquis de Boiscoran, un sac de voyage à la main, suivait. Tout s'explique, se dirent les espions volontaires qui étaient venus coller l'œil à une des fenêtres. Et comme le train n'amenait aucun autre voyageur, ils obtinrent du conducteur de l'omnibus de partir à l'instant même, pressés qu'ils étaient d'annoncer l'arrivée du père de l'accusé. L'heure était indue. Depuis longtemps, la ville dormait, mais ils ne désespéraient pas de trouver encore quelques habitués au cercle littéraire. On y veille souvent, fort avant dans la nuit, à ce cercle, depuis qu'on y joue, car on y joue, et même à ces gros jeux, pour y perdre très joliment son billet de 500 francs. Cette aimable distraction, à vrai dire, ne date que de quelques années. À 10 heures sonnantes, autrefois, les journaux lus et relus et les cancans épuisés, chacun regagnait tranquillement son logis. Mais voilà que, vers 1850, un homme de plaisir, grand ami de la vie joyeuse et d'ailleurs fort spirituel, fut nommé sous-préfet à Sauveterre. Il s'y ennuya, et pour se distraire, il eut l'idée d'inoculer aux habitués du cercle le virus du baccarat tournant. Il n'y avait pas de chance, mais les autres y prirent un goût extrême. Et depuis, le sous-préfet a été changé, mais le baccarat est resté au grand désespoir des dames de la société. Donc les implacables curieux avaient chance de trouver des oreilles pour leurs grosses nouvelles. Et cependant, moins pressés de la répandre, ils eussent assisté, et non sans émotion peut-être, à cette première entrevue de M. de Chandoré et du marquis de Boiscoran. D'un même mouvement instinctif, ils s'étaient précipités à la rencontre l'un de l'autre, et désespérément, ils se serraient les mains. Ils avaient des larmes dans les yeux. Ils ouvraient la bouche pour parler, puis ils se taisaient, comme si les plaintes qui leur montaient aux lèvres leur fussent retombées dans le cœur. Entre eux, d'ailleurs, qu'était-il besoin de paroles? N'était-ce pas assez de cette muette étreinte pour que le père de Jacques comprît tout ce que devait souffrir le grand-père de Denise? Et ils demeuraient immobiles, en face l'un de l'autre, quand le docteur Saignebosse, qui se donnait comme toujours beaucoup de mouvements, vint à eux. « Les bagages sont sur la voiture, » leur dit-il. « Venez-vous. » Ils sortirent. La nuit était fort claire et à l'horizon, au-dessus de la masse noire de la ville endormie, se détachaient sur le bleu pâle du ciel les deux tours du vieux château transformé en prison. « Voilà donc où est Jacques !» murmura M. de Boiscoran. « Voilà où est enfermé mon fils, accusé d'un crime atroce !»« Nous l'en tirerons, morbleu !» interrompit M. Saignebosse en aidant le marquis à monter en voiture. Mais c'est en vain que, durant le trajet, le docteur essaya, ainsi qu'il le dit, de remonter le courage de ses compagnons de route. Ses espérances ne trouvaient nul écho en ses âmes désolées. Maître Folga s'informa de Mademoiselle Denise qu'il avait été surpris de ne pas voir à la gare. M. de Chandoré lui répondit qu'elle était restée à la maison avec des tantes à la varande pour tenir compagnie à Maître Magloire. Et ce fut tout. Il est de ces situations où parler est un supplice. Le marquis de Boiscoran n'avait pas trop de toute sa volonté pour maîtriser des spasmes qui ressemblaient fort à des sanglots. De se voir à Sauveterre, cela le bouleversait. La distance, quoi qu'on dise, émousse les sensations. Une poignée de main de M. de Chandoré l'avait plus remué que toutes les lettres qu'il avait reçues depuis un mois. Et en découvrant au loin la prison de Jacques, il avait eu la notion exacte de l'épouvantable torture de ce malheureux, impuissante à se disculper. Madame de Boiscoran, elle, était depuis la veille anéantie, comme si tous les ressorts de son âme se fussent brisés d'un coup. Et M. de Chandoré frémissait de les voir ainsi accablés. S'il désespérait, qu'avait-il à espérer, lui qui savait la destinée de Denise indissolublement liée à la destinée de Jacques? La voiture, cependant, s'arrêtait rue de la Rampe. La porte de la maison s'ouvrit aussitôt et Madame de Boiscoran se trouva dans les bras de Denise qui la soutint jusqu'à un fauteuil du salon. Les autres avaient suivi. Il était plus de 2 heures, mais chaque minute désormais avait sa valeur. Rajustant ses lunettes, « Je suis d'avis, commença le docteur Seignebos, d'échanger nos renseignements. Moi, ici, j'en suis toujours au même point. Mais savez-vous mes convictions? Je n'en démords pas. Cocoleu est un simulateur et je le prouverai. Je semble ne plus m'occuper de lui. En réalité, je l'observe de plus près que jamais. » Mademoiselle Denise l'interrompit. « Avant de rien décider, fit-elle, il est un fait qu'il faut que vous sachiez. Écoutez-moi. » Et pâle, car il lui en coûtait affreusement de livrer le secret de son cœur, mais l'œil étincelant d'énergie et d'une voix vibrante, elle raconta ce que déjà elle avait avoué à son grand-père, c'est-à-dire les propositions qu'elle était allée porter à Jacques et son refus obstiné de fuir. « Bien, jeune fille, approuvait M. Seignebos enthousiasmé. Très bien. Si malheureux que soit Jacques, on peut encore envier son sort. » Mademoiselle Denise terminait. Adressant à Maître Magloire un regard de triomphe, « Après cela, ajouta-t-elle, est-il quelqu'un encore qui puisse croire que Jacques est un lâche assassin ?» Le célèbre avocat de Sauveterre n'était pas de ceux qui tiennent à leur opinion plus qu'à la vérité. « J'avoue, dit-il, que si j'avais à voir Jacques demain pour la première fois, je ne lui parlerai pas comme je l'ai fait. » « Et moi, s'écria le marquis de Boiscoran, je déclare que je réponds de mon fils comme de moi-même, et je le lui dirai demain. » Et se penchant vers sa femme, et assez bas pour qu'elle fût seule à l'entendre, « Et j'espère, ajouta-t-il, que vous me pardonnerez les soupçons qui maintenant me font horreur. » Mais les forces de la marquise étaient à bout. Elle défaillait et elle dut se retirer, accompagnée de Denise et des tantes Lavarande. Sur leurs talons, le docteur Seignebos donna un tour de clé à la porte et, s'adossant à la cheminée et retirant pour les essuyer ses lunettes d'or, « Maintenant, maître Folga, dit-il, nous pouvons parler librement. Quelles nouvelles apportez-vous »